Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va entamer notre deuxième conférence de ce cycle de cette année académique. Alors peut-être avant d'en venir directement aux conférences, je voulais en fait vous informer que demain à l'ACF à Bruxelles, il y aura une conférence sur l'institution soutenu dans un questionnement entre, au fond, le désir et l'idéal de l'institution, qui renvoie au désir et à l'idéal de chacun qui travaille dans l'institution ou qui en est à l'origine. Alors, voilà, c'est un peu une conjonction. Ça m'a fait penser, au fond, à quel est le désir et l'idéal du psychanalyste. Ça pourrait être aussi une autre question. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un point d'idéal, et je me disais que ça tombait bien par rapport au questionnement de demain, de le déplacer légèrement. Alors j'ai retrouvé ce petit texte qui questionne vraiment l'idéal, et en le relisant pour vous l'apporter ce soir, je me disais, ça mérite une vraie réflexion de notre part, au fond, à un autre moment, dans un autre lieu. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, on voit la place de l'idéal, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je vous la cite ce soir parce que nous sommes le 10 décembre et que c'est la journée d'Amnesty International et du prisonnier politique. Et donc, si vous avez envie d'allumer une petite flamme ce soir en rentrant chez vous, pourquoi pas, mais un jour c'est peu et une année c'est mieux. Donc, voilà, j'avais envie de partager avec vous ce point-là, mais je pense, en relisant cette phrase, que ça peut vraiment nous questionner dans notre position d'analyste et de citoyen, notre lien qui est chaque fois singulier à l'idéal. Alors, cette petite parenthèse étant faite, je voudrais revenir sur notre première conférence où nous avons reçu, et vous rappeler quelques points, où nous avons reçu Bernard Sénave et Philippe Hellebois. Ils ont épinglé dans les premières séances du séminaire 5 deux formations de l'inconscient freudien, à savoir le vite, qu'on traduit par le trait d'esprit ou le mot d'esprit. Bernard Sénave nous disait qu'il préférait la traduction du trait d'esprit, et l'oubli de nom. Bernard Sénave nous a rappelé qu'à l'époque du séminaire 5, en 1957-1958, Lacan s'oriente de la primauté du symbolique, et s'approcher de la vérité de son symptôme passe alors par une éthique du bien-dire, par le fait de trouver le bon mot pour dire son symptôme. Dans ce sens, ce bon mot serait comme un message qui aurait structure du trait d'esprit. Voilà pourquoi Lacan nous parle du trait d'esprit. Le trait d'esprit apparaît comme une création du sujet, comme une perle, une pépite qu'on peut retenir dans la parole du sujet. Philippe Hellebois, lui, nous a montré qu'avec l'oubli de nom, dont l'exemple de Signorelli pris chez Freud, le sujet témoigne de la rencontre d'un point de réel. Cette rencontre d'un point de réel prend son départ, nous dit Philippe Hellebois, dans quelque chose en lien avec la chose sexuelle. En ce sens, nous dit-il, parler est toujours un trouble du langage. L'oubli de nom apparaît donc comme un trou. Il n'est pas fortuit, mais il a une cause. Il a un mobile, nous dit-il. Il résulte en quelque sorte d'un échec là où il y a métaphore dans le vite ou dans le lapsus. Mais comme pour le vite, c'est son point commun, à l'oubli de nom, sa fonction est de voiler un réel. Voilà, ça c'était pour vous remettre en place les deux temps qui avaient été développés par chacun des conférenciers. Alors, ce soir, nous entendrons parler Véronique Robert, qui est à ma gauche, et Béatrice Brault, qui est à ma droite. Elles vont commenter les séances 5 et 4, donc 4 et 5 du séminaire. et elles prendront la parole sous le titre « Métaphore et métonymie, le veau d'or, les nœuds de sens et du plaisir ». Je vais d'abord donner la parole à Véronique Robert. Véronique Robert, qui est psychanalyste, qui est directrice thérapeutique au Tourtil à Tournai, qui est membre de l'école de la cause freudienne et qui reçoit à Bruxelles et à Braine-le-Comte, non loin d'ici. Voilà, Véronique, je vous passe la parole.
Je prends.
Oui, ou
il marche.
Oui, vous pouvez l'approcher.
Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai relu pour aujourd'hui le début du séminaire 5, séminaire que j'avais lu il y a une dizaine d'années déjà. Et donc, à ma première lecture, ma première relecture du chapitre 4, il m'était resté un petit quelque chose, juste un tout petit quelque chose. Je me sentais comme emportée dans un navire avec à bâbord la métaphore et à tribord la métonymie. Et j'éprouvais comme une sorte d'enthousiasme à entrer dans le port. Voilà ce qui me restait de ma première lecture assez rapide, je dois dire, du chapitre 4. Ce n'est qu'à la deuxième relecture que je me suis rendu compte qu'avec Lacan, j'avais été emportée par la métonymie à partir de l'exemple particulier, donc que vous trouvez dans le chapitre 4, 30 voiles, dont il parlait juste avant. Nous y reviendrons. Vous savez que dans ses premiers chapitres du séminaire 5, Lacan relie l'écrit de Freud, le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. Et donc Lacan introduit donc ce chapitre 4 par quelques remarques sur ce que nous apprend Freud dans son abord de l'inconscient. Tout d'abord, il insiste sur la démarche de Freud, à savoir qu'il part de l'exemple particulier pour saisir les propriétés les plus significatives. Bon, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Il y a absolument plein d'exemples. Deuxièmement, Freud nous apprend que nous sommes déterminés par des lois qui sont les lois du signifiant. Contrairement donc à ce que nous pouvons penser de nous-mêmes, à savoir qu'il y a possibilité d'atteindre une idée de la totalité de la personne, de pouvoir faire une synthèse, de pouvoir se soumettre à notre volonté. Donc synthèse, totalité de la personne, volonté sont des termes qui sont absolument contestés par Freud. Enfin, Freud met l'accent sur la béance entre la structuration du désir et la structuration de nos besoins. Donc les besoins sont brisés, morcelés, structurés par tous les mécanismes où nous reconnaissons les lois du signifiant. Ils ne peuvent être admis par l'autre comme objet d'échange. Puisqu'ils passent par la parole, donc puisque les besoins passent par la parole, par la demande, ils sont, dit Lacan, soumis à la nécessité du refus. Il évoque là l'exemple du mot d'esprit familionnaire analysé par Freud et dont il a déjà parlé dans les deux chapitres précédents, enfin dans les chapitres précédents, pour nous dire, nous rappeler qu'il s'agit dans ce trait d'esprit d'un certain rapport qui échoue, un mode d'impasse essentiel dans les rapports humains. Donc, je ne vais pas reprendre le développement au sujet donc du trait d'esprit familionnaire, sinon pour dire que le rapport d'égal à égal entre Hirsch et Rothschild échoue, de même qu'échoue le rapport entre Heine et son oncle, homme riche et oncle dont il désirait sa fille. Bon, je suppose que vous avez vu ça. Donc, un certain rapport qui échoue. Lacan nous amène un autre exemple, c'est l'histoire du masochiste et du sadique. « Fais-moi mal, » dit le masochiste au sadique. « Non, » répond le sadique. Donc, pour autant que nous nous trouvons au niveau de la parole, ce qui devrait aboutir à la plus profonde entente conduit au refus. Autrement dit, le refus de répondre à la demande soutient quelque chose qui se manifeste par la parole, à savoir le désir. Donc c'est là que Lacan va reprendre une partie de son graphe. Et donc, je vais le refaire au tableau. Il situe ici le besoin, là c'est la chaîne signifiante, ici la ligne du discours, ici l'autre, le lieu du code, là le lieu du message. Alors il dit qu'il y a deux boucles, une boucle fermée et une boucle ouverte. Et donc ici, donc le besoin se formule par la parole, donc par la demande. Et donc, comment dire, il court ici, le message arrive là, et là nous avons l'anneau du discours. Par contre, si le besoin court-circuite directement vers l'objet de son désir, la réponse de l'autre sera nécessairement non. Et c'est là que Lacan va situer le refus. Donc l'exemple du masochiste et du sadique, de cette petite vignette, donne une illustration de ce court-circuit et de cette nécessité du refus. Bon, alors, pour poursuivre son abord de la métonymie, Lacan reprend dans le texte de Freud un mot d'esprit issu d'un dialogue entre Henri Heine et le poète Frédéric Soulier. Donc, c'est l'histoire du veau d'or. Alors, je la relis. Page 69. Un attroupement se forme dans un salon autour d'un vieux monsieur auréolé de tous les reflets de sa puissance financière. « Regardez, » dit Frédéric Soulier à celui qui n'était que de peu son aîné, donc Heine, et dont il était l'admirateur. « Regardez comment le XIXe siècle adore le veau d'or. » À quoi Henri Heine, d'un œil dédaigneux, regardant l'objet sur lequel on attire son attention, répond « Oui, mais celui-là me semble avoir passé l'âge. » Avec l'histoire du veau d'or, Freud se trouve devant une nouvelle variété de mots d'esprit que celle de familionnaire. Lacan insiste à nouveau là sur la façon de procéder de Freud. Donc Freud ne va pas partir dans son analyse du sens, de la signification, mais toujours du point opposé, à savoir de la matérialité du signifiant. La question de Freud, c'est en quoi consiste la technique de cet excellent mot d'esprit ? Alors, Freud nous dit que le mot d'esprit n'est pas à trouver dans l'énoncé de Frédéric Soulier, c'est-à-dire, il n'est pas à trouver dans « Regardez comment le XIXe siècle adore le veau d'or ». Même si cette expression « veau d'or » est une métaphore, et même si elle est chargée d'intrication, d'emmêlement de la fonction symbolique avec l'imaginaire. Qu'y a-t-il dans ce veau d'or ? S'interroge Freud. Alors, le veau d'or symbolise l'idolâtrie, qui, dans la perspective religieuse, est une substitution de l'imaginaire au symbolique. Donc, voilà, je suppose que vous savez que l'expression « veau d'or » est issue d'un épisode de l'Exode. Donc, pendant que Moïse montait au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux, à peine libérés du joug du Pharaon, décident de se construire une idole d'or qu'ils adorèrent à l'imitation du taureau Apis qui était adoré en Égypte. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï et qu'il vit les Hébreux adorer cette idole, ce qui est littéralement interdit par les deuxième et troisième commandements, Moïse fut pris d'une grande colère. Donc, voilà d'où vient la référence au veau d'or. Par ailleurs, le veau d'or symbolise également le pouvoir de l'argent, de la richesse. Donc, voilà, Freud analyse donc l'histoire, la métaphore de ce veau d'or, et il dit que le mot d'esprit ne se trouve pas là. Il dit que le mot d'esprit est à trouver dans la réponse de Heine. Heine prend le terme « veau d'or », dit-il, non pas au sens métaphorique, mais en l'appliquant à une personne, à l'homme d'argent lui-même. Pour Freud, la réponse de Heine équivaut à 1. Oh non, ce n'est plus un veau, c'est déjà un gros bœuf. Freud nous dit que la technique de ce mot d'esprit repose sur le double sens du mot veau d'or, et que ce double sens, c'est justement ce qui permet le détournement de la démarche de la pensée. Voilà, c'est ce qui permet le détournement de la démarche de la pensée. La réponse de Heine consiste à annuler, à subvertir toutes les références qui soutiennent la métaphore de ce veau d'or pour désigner en lui celui qui est ramené tout d'un coup à la qualité de n'être plus qu'un veau. Ce veau est pris pour ce qu'il est, un être vivant que le marché institué par le règne de l'or réduit à n'être que vendu comme un bétail. À la fin du chapitre, Lacan reprend cet exemple du veau d'or. En essayant donc de le mettre sur ce schéma. Donc, nous avons toujours le besoin là. Alors, Soulier, donc attendez, ici, voilà. On est là, comme ça.
l'autre. Alors, donc, Soulier s'adresse à Ayn en lui disant « mon cher maître ». Et donc, Lacan nous dit que donc Soulier s'adresse à, au grand autre. Il place Ayn en position de grand autre. Et il place Soulier en position de « je », qu'il situe ici. Voilà. Et il adresse à Ayn, donc Soulier adresse à Ayn un lieu commun. Parce que le veau d'or, ben, c'est un lieu commun, ça ne présente aucune ambiguïté. Et donc, il adresse donc, cette petite remarque, regardez cet homme femme, voilà. Et donc, d'ici, on peut dire, le veau d'or arrive ici. Ça suit la chaîne signifiante. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le veau d'or, quand il arrive ici, n'a plus la même signification que là. Ici, c'est le veau tout court, disons-le. Il y a eu une chute de signification. Donc, le veau d'or n'a plus la même valeur. Il n'est plus repris sur le même plan. Veau d'or, veau. Il perd de sa valeur, il chute. Et donc, on peut situer la réponse de Ayn ici. Oui.
Bon. Alors, retenons déjà maintenant, avec ce trait d'esprit-là, attendez, je perds un. Qu'est-ce que je pourrais dire là? Il y a la notion de la valeur. Donc, la valeur du veau d'or, le veau, enfin, il y a une notion de valeur. Et il y a aussi, attendez, faut que je dise autre chose. Il y a aussi la chute. Bah oui, la chute. Ce n'est plus un veau, c'est déjà un gros bœuf. Il y a une chute de valeur, une perte de valeur. Voilà. Donc, Freud relève la différence entre les mots d'esprit de type familionnaire et ceux de type veau d'or. Donc, le familionnaire était analysable. Le mot d'esprit de type veau d'or ne l'est pas. Dans les premiers, les traits d'esprit de type familionnaire, il y a substitution d'un mot par un autre, donc c'est à situer du côté de la métaphore. Dans les seconds, un mot est pris dans un autre sens que celui dans lequel il nous est apporté, et là on est du côté de la métonymie. Une autre histoire s'inscrit dans cette même catégorie que le veau d'or. C'est celle qui se rapporte à la confiscation des biens des Orléans par Napoléon. On fit à l'époque le jeu de mots suivant, c'est le premier vol de l'aigle. On voit là que le mot vol est pris dans deux sens, en vol et brigandage, voler. Et c'est sur ce double sens que repose le mot d'esprit. On voit qu'on peut glisser d'un sens à l'autre sens. Alors, Lacan poursuit sa recherche sur la métonymie en prenant un autre exemple tiré d'une tirade du Cid de Corneille. C'est donc ça qui m'est resté après ma première lecture du chapitre. Donc je vous lis quelques vers. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusque au port. 30 voiles donc est dit au lieu de 30 navires. Donc, alors, il ne s'agit pas là seulement de la partie prise pour le tout, nous dit Lacan. En quoi est-ce une métonymie? Eh bien, voilà, moi c'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant cette page. Donc c'est quelle page exactement, je vous dis. Voilà, c'est la page 73. C'est que Lacan lui-même utilise la métonymie dans cette page-là. Parce qu'il commence par nous parler donc de cet exemple 30 voiles au lieu de 30 navires. Et puis finalement, il reprend son sujet à lui et il utilise les termes de tanguer, de bâbord et tribord. Et donc on voit que le glissement des mots dans des contextes différents entre donc l'exemple tiré du site et ce que Lacan nous dit. Donc c'est ce qui m'avait c'est ce que j'avais retenu à ma première lecture de ce chapitre. Donc on le voit utiliser lui-même la métonymie, nous emmenant, nous lecteurs, dans le navire. Et c'est comme si nous étions tout à coup à la place des morts, entrant dans le port avec à bâbord la métaphore et à tribord la métonymie. On y voit le glissement de mot à mot, la continuité de la chaîne, navire, voile, tanguée, bâbord, tribord. Donc, si la métaphore tient à la fonction apportée à un signifiant, en tant que ce signifiant est substitué à un autre dans une chaîne, la métonymie, elle, tient à la fonction que prend un signifiant en tant qu'il est en rapport avec un autre signifiant dans la continuité de la chaîne signifiante. La fonction de la voile par rapport au navire est dans une chaîne signifiante et non dans la référence au réel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit... attendez. Hein. Ou bien elles sont 30 voiles et il n'y a pas 30 navires, ou bien il y a 30 navires... et elles sont plus de 30. Donc, il n'y a pas de référence au réel, c'est dans la continuité de la chaîne. Même si quelque chose d'origine métonymique est placé en position de substitution, puisque quand même, on peut avoir l'impression que c'est une métaphore parce que c'est placé, enfin, voile est placé à la place de navire, mais c'est autre chose qu'une métaphore. Voilà. Et Lacan, de formuler qu'il n'y aurait pas de métaphore s'il n'y avait pas de métonymie. Il n'y aurait pas la métaphore familionnaire s'il n'y avait pas la métonymie, c'est-à-dire un rapport de contiguïté entre le mili de familier au mili de millionnaire. Donc dans la métonymie 30 voiles, 30 navires, c'est un rapport de continuité ou contiguïté de mot à mot, mais dans le du familier à familionnaire, il y a un rapport de contiguïté de son. Donc, il n'y aurait pas de métaphore s'il n'y avait pas de métonymie. Alors, Lacan amène encore d'autres exemples pour nous faire ressentir, nous faire saisir ce qu'est la métonymie. Et donc là, il utilise un joli extrait d'un roman de Maupassant que je vais vous lire. C'est à la page 77. C'est vraiment très 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 beau, j'aime bien. Alors je vais juste prendre le passage sur le repas. Bon, voilà. Les huîtres d'Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles. Et fondant entre le palais et la langue, ainsi que des bonbons salés. Puis, après le potage, on servit une truite rose comme de la chair de jeune fille. Et les convives commencèrent à causer. Ce fut le moment des sous-entendus adroits, des voiles levées par des mots, comme on lève des jupes. Le moment des ruses de langage, des audaces habiles et déguisées, de toutes les hypocrisies impudiques, de la phrase qui montre des images dévêtues avec des expressions couvertes, qui fait passer dans l'œil et dans l'esprit la vision rapide de tout ce qu'on ne peut pas dire. Et permettent aux gens du monde une sorte d'amour subtil et mystérieux, une sorte de contact impur des pensées par l'évocation simultanée, troublante et sensuelle comme une étreinte de toutes les choses secrètes, honteuses et désirées de l'enlacement. On avait apporté le rôti des perdreaux. Trois petits points. Alors, nous voyons donc ce personnage à table. Bon, voilà, j'ai pas lu l'extrait qui précède, mais nous voyons ce personnage à table, emporté par la subversion métonymique. Emporté par la métonymie, enchaîné dans une série de situations où il ne lui est pas permis de s'y retrouver, de s'y reposer. Donc on voit, ça n'arrête pas, enfin ça s'enchaîne. Cette subversion métonymique. Alors, bon, on voit, par exemple, on servit une truite rose comme de la chair de jeune fille. Donc ça glisse de la truite rose à la chair de jeune fille. Et donc le héros se trouve dans une position, dit Lacan, toujours double à l'endroit de l'objet. On ne sait si c'est de la truite ou de la chair de jeune fille qui est sur la table, nous dit Lacan. On s'aperçoit là aussi que dans cet effort de dire la réalité comme telle, l'introduction du discours désorganise, pervertit cette réalité. Ce qui fait dire à Lacan que le discours ne répond pas du réel. Il le connote, ce qui lui fait dire également qu'il n'y a pas de réalisme littéraire. Donc par cet exemple, on voit là un sujet emporté par la métonymie. Hein? Alors, dernier exemple pris par Lacan dans ce chapitre, c'est quelques extraits des nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. Alors, il y en a une qui est plus analysée par Lacan, et c'est celle-ci. Alors, derrière un cercueil, Mangin de Verdun cheminait. Il n'atteignit pas ce jour-là le cimetière. La mort le surprit en route. Alors, ce que relève Lacan, c'est d'une part l'extrême réduction. Donc, c'est ce qui rend intéressant ces nouvelles. L'extrême réduction et d'autre part le glissement de sens, qui fait que la nouvelle n'a pas de centre de gravité. Elle n'est pas de point d'équilibre, elle est déroutante, désorganisante. On pourrait dire que la mort glisse du cercueil à celui qui le suit. C'est ça qui fait rire, c'est que il n'arrive pas au cimetière, mais en fait, finalement, il va quand même y arriver, puisque la mort le surprend en route. Donc, on est dérouté. Voilà. Alors, donc Lacan donc termine ce chapitre 4. Donc je l'ai dit tout à l'heure en revenant sur le trait d'esprit du Vaudor. J'ai oublié de vous dire que par rapport à ça, que Lacan nous fait une remarque qui est importante. Il nous dit que nous avons deux personnages dans ce trait d'esprit, Soulier et Aigne, mais en fait, il ne pourrait être qu'un seul, l'autre existant en chacun de nous. Donc, ça pourrait être une seule personne. Alors, il termine le chapitre par deux remarques. Que la métonymie est le lieu où nous devons situer dans le langage humain la dimension de la valeur à l'opposé de celle du sens. Donc ça, j'ai mis l'accent là-dessus, sur la dimension de la valeur, lorsque j'ai parlé du Vaudor. Donc, la chute du veau d'or au veau. Et il fait donc une remarque sur la notion de la valeur à partir d'un passage issu du Capital de Marx. Et j'ai retrouvé ce petit passage que je vais vous lire. Alors, sous un certain rapport, il en est de l'homme comme de la marchandise. Comme il ne vient point au monde avec un miroir, il se mire et se reconnaît d'abord seulement dans un autre homme. Aussi cet autre, avec peau et poil, lui semble-t-il la forme phénoménale du genre homme. Donc, il termine donc en nous disant que l'homme ne peut avoir une idée de sa valeur qu'en se comparant à l'image de l'autre, que pour déterminer la valeur d'une chose, il faut établir un étalon de mesure, un rapport d'équivalence entre des choses différentes, et ce qui a pour conséquence que les choses perdent leur sens. Avec l'usage, par exemple, de la monnaie, la chose perd de son sens. Ça vaut, ça vaut 100 francs, peu importe ce que c'est. Cette perte de sens, eh bien, cela dit quelque chose de la métonymie. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui.
Merci beaucoup. On viendra avec les questions à la fin, comme on a l'habitude de le faire. Alors, je vais donner la parole à Béatrice Brault, qui est psychothérapeute dans une institution à Valenciennes qui accueille pour la majorité des cas des enfants plutôt de structure psychotique et qui reçoit également ici à Mons. Voilà, je lui passe la parole.
Tu veux ça? Voilà. Donc, dans ce chapitre 5, hein, qui s'intitule « Le peu de sens et le pas de sens », il est encore question du trait d'esprit. Voilà, je compte. Je ne sais pas s'il est ouvert. Voilà, vous m'entendez? Donc, Freud, dans son livre Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, d'un bout à l'autre de son livre, il se pose la question de savoir comment, avec du signifiant, on produit du plaisir. Alors, il ne se demande pas simplement comment le signifiant produit du mot d'esprit. Comment on fait s'emboutir des chaînes signifiantes qui créent des mots inédits, qui font rigoler, qui surprennent, qui ravissent, et puis qu'on se répète. Ce qu'il se demande essentiellement, c'est comment, avec une articulation signifiante, on arrive à obtenir un gain de plaisir qui se manifeste dans le fait qu'on se met à rire brusquement et qu'on en retire une satisfaction. Alors déjà, en 1895, dans les études sur l'hystérie, Freud se penche sur la dimension du signifiant. Il met en avant la capacité de jouer sur les mots. Je vais donner un petit exemple, c'est à propos de la guérison du symptôme hallucinatoire d'une patiente, Cécilie M., dont on peut dire que la suppression de ce symptôme exigea beaucoup de vitz. Freud mit alors en avant l'imprégnation symbolique des expressions verbales. Donc je suis allée rechercher une petite... Il y a des petites notes en bas de page parfois qui sont très riches, même si ce n'est pas un cas qu'il a développé. On trouve ça dans les études sur l'hystérie, page 145, dans cette version au PUF. Donc je lis ce que dit Freud. Dans certains états d'altération psychique profonde, il se produit évidemment aussi une imprégnation symbolique des expressions verbales plus artificielles par images sensorielles et sensations. Chez Fro-Cécilie, chaque pensée se transformait, à certains moments, en une hallucination dont la suppression exigeait beaucoup d'esprit. Elle se plaignait alors d'être poursuivie par une hallucination où elle voyait ses deux médecins, Breuer et moi, pendus dans le jardin à deux arbres voisins. Cette hallucination disparut après que l'analyse eut découvert les faits suivants. Le soir précédent, elle s'était vue refuser par Breuer un certain médicament qu'elle réclamait. Elle espéra alors réussir auprès de moi, dit Freud, mais me trouva tout aussi impitoyable que Breuer. Elle se fâcha et se dit dans son émotion, ces deux-là se valent, l'un est bien le pendant de l'autre. Voilà. Donc la démarche de Freud, à travers son ouvrage sur le mot d'esprit, est de tout d'abord faire apparaître que la source primitive du plaisir est rapportée à une période ludique de l'activité infantile. Il s'agit tout simplement de ce premier jeu avec les mots, lié à l'acquisition du langage en tant que pur signifiant lié au jeu verbal. Puis Freud va rapidement mettre en avant qu'il ne s'agit pas purement et simplement d'un retour à cette période ludique infantile où il y a peu de contrôle de l'usage du signifiant. Il va vite dégager que le mot d'esprit a deux faces. D'une part, celle de l'exercice du signifiant et de son ambiguïté fondamentale par rapport au sens, c'est-à-dire le rapport, je vous l'ai écrit, je ne sais plus où, là, voilà, le rapport du signifiant au signifié, et d'autre part, la face de l'inconscient. Donc deux faces, hein, le rapport signifiant-signifié et l'autre face, le rapport de l'inconscient. Et Freud va surtout montrer par quelles voies anciennes, toujours là en puissance, par quelles voies ce plaisir passe. Eh bien, ces voies anciennes sont tout simplement les voies structurantes de l'inconscient. Les structures que révèle le mot d'esprit ne sont autres que celles que Freud a découvertes dans ses premières appréhensions de l'inconscient, au niveau des rêves, des actes manqués, des lapsus, des symptômes. Ces structures, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont les structures de la condensation et du déplacement que Lacan lui reprendra sous les rubriques de la métaphore et de la métonymie. Notre recours à l'ouvrage de Freud sur le trait d'esprit, dit Lacan, se fait grâce à cette commune mesure de l'inconscient et de la structure de la parole, en tant qu'elle est commandée par les lois du signifiant. Freud, dans le chapitre sur le mécanisme du plaisir, se réfère sans cesse à cette formule si souvent répandue à propos du mot d'esprit, le sens dans le non-sens. Cette formule fait état de deux faces apparentes du plaisir. Premièrement, le mot d'esprit frappe d'abord par le non-sens, mais qui nous attache. Puis, ce non-sens se trouve récompensé par l'apparition d'un sens secret dans ce non-sens. Le non-sens a le rôle de nous leurrer à l'instant, dit Lacan. On s'aperçoit d'ailleurs que Freud va vite répudier dans son livre le terme de non-sens. Pour arriver à faire le nœud entre l'usage du signifiant et du plaisir, Lacan, lui, nous propose de ne pas prendre notre départ d'un recours à l'enfant comme l'a fait Freud. J'explique. Lacan veut expliquer les nœuds du signifiant et du plaisir sans en passer par une sorte de psychogénèse du mécanisme de l'esprit. Lacan pointe d'ailleurs très justement, on s'en rend compte quand on travaille ou qu'on fréquente des jeunes enfants, que l'enfant ne participe que de très loin au plaisir de l'esprit, à moins qu'il ait déjà un certain âge. Donc, sans faire de psychogénèse, le seul intérêt que Lacan voit à recourir à l'enfant, donc il n'écarte pas tout à fait ce que Freud mettait en avant, c'est-à-dire l'enfant va nous apprendre quelque chose, mais lui, il nous propose de s'intéresser à ça. C'est de ne pas oublier qu'au début, le signifiant il est fait pour servir à quelque chose. Il est fait pour servir à quoi au tout début? Eh bien, il est fait pour exprimer une demande. On peut même dire déjà l'appel, le premier appel de l'enfant, qui va émettre un signifiant. Alors, qu'est-ce qu'une demande? Lacan dit, c'est ce qui, d'un besoin, passe au moyen du signifiant à une demande adressée à l'autre. Il dit ça, page 86. La demande est par soi-même, poursuit-il, si relative à l'autre, au grand autre. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez un petit peu essayer de suivre en même temps sur une partie du graphe là, que j'ai représenté. Et voilà, on peut un petit peu s'y repérer au fil du développement. Donc, finalement, si la demande est par soi-même si relative à l'autre, l'autre se trouve tout de suite en posture d'accuser le sujet, de le repousser, alors qu'en évoquant seulement le besoin, si on s'en tient qu'au besoin, il authentifie celui-ci, il l'assume, il l'amène à lui. Lacan dit d'ailleurs, si l'autre commence déjà à reconnaître le besoin, c'est déjà une satisfaction essentielle. Il n'a pas dit s'il satisfait à la demande du besoin. Si déjà il reconnaît. Hein, l'histoire de la reconnaissance est importante. Alors, prenons l'exemple du jeune enfant qui appelle, qui pleure, car c'est l'heure habituelle à laquelle il se nourrit. Si la mère répond en lui donnant à boire, on va dire c'est déjà une satisfaction essentielle. Ceci dit, il peut arrêter au bout de 5 minutes et continuer à pleurer. C'est pas ça qu'il voulait, c'est autre chose. Voilà. Il peut y avoir autre chose. Il voulait peut-être boire, mais peut-être pas, ou il voulait boire et peut-être autre chose à la fois. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie différentes choses. J'ai envie de dire dans le meilleur des cas. Et malheureusement, il y en a d'autres plus celles avec lesquelles j'ai peut-être plus affaire à mon travail. Pas pour rien que les enfants ne peuvent plus rester avec leur maman. Parfois, elles ne répondent pas du tout. C'est-à-dire, elles n'entendent pas ou elles ne répondent pas. C'est-à-dire, c'est un vide qui vient à la place. Et là, on est dans un autre cas de figure. Alors, le système des besoins vient donc dans la dimension du langage pour y être modelé. La demande, de par sa nature, le fait de demander, se pose essentiellement comme pouvant être exorbitante et ou infinie. C'est pas pour rien, dit Lacan, que les enfants parfois demandent sans cesse, voire même demandent la lune. Il y a un côté infini parfois dans toutes ces demandes. Alors, que se passe-t-il dans la demande de satisfaction d'un besoin? Si nous donnons, dit Lacan, à notre prochain ce qu'il nous demande, par où faut-il en passer? Ou encore, interroge Lacan, à quelle réduction de ses prétentions faut-il que le sujet se réduise lui-même pour que la demande soit entérinée? Donc, nous entendons déjà que toute demande implique, pour celui qui demande, une perte, une réduction. L'homme de désir, dit Lacan, le Don Juan de Molière, par exemple, donne bien entendu au mendiant ce qu'il lui demande. Et ce n'est pas pour rien qu'il ajoute « pour l'amour de l'humanité ». Donc ce n'est pas par simple désir d'aider le mendiant, on voit que ça vise un au-delà. C'est donc à un autre au-delà de celui qui est en face de vous, que la réponse à la demande est en fin de compte déférée. Donc celui qui demande perd quelque chose, mais celui qui répond à la demande, il donne plus ou moins, au-delà de ce qu'il pensait donner. Alors Freud, dans son analyse du mot d'esprit, raconte une histoire, donc je pense que vous l'avez lue, puisque Lacan la reprend intégralement dans le séminaire. Donc c'est la fameuse histoire du saumon mayonnaise. Page 88. Une des histoires sur lesquelles Freud fait pivoter son analyse du mot d'esprit, celle du saumon mayonnaise, est la plus belle à en donner l'illustration. Il s'agit d'un personnage qui, après avoir donné à un quémandeur quelque argent dont celui-ci a besoin pour faire face à je ne sais quelle dette, à ses échéances, s'indigne de le voir donner à l'objet de sa générosité un autre emploi. C'est une véritable histoire drôle. Après le bienfait, il le retrouve donc dans un restaurant, en train de s'offrir ce qui est considéré comme le signe de la dépense somptuaire, pour situer le contexte à l'époque évidemment, du saumon à la mayonnaise. Il faut y mettre un petit accent viennois qu'appelle le ton de l'histoire. Il lui dit « Comment ? Est-ce pour cela que je t'ai donné de l'argent ? Pour t'offrir du saumon mayonnaise ?» L'autre entre alors dans le mot d'esprit en répondant « Mais alors, je ne comprends pas. Quand je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir de saumon mayonnaise. Quand j'en ai, je ne peux pas non plus en prendre. Quand donc mangerai-je du saumon mayonnaise ?» Donc, la pertinence de cette histoire se situe dans le rapport entre finalement le signifiant et le désir. On voit bien qu'il y a du désir en jeu dans cette petite histoire racontée. Le désir est subverti, rendu ambigu lui-même par son passage par les voies du signifiant. Donc, que se passe-t-il dans ce temps d'arrêt par une voie singulière qui, par une voie singulière, décale l'expression de la demande par rapport à l'accès à la satisfaction. Donc, pour répondre à ce qui se passe dans ce temps d'arrêt, Lacan fait usage, une fois de plus, là, tout au long du séminaire, il va se référer à chaque fois à ce qu'il appelle le graphe du désir, et à chaque fois, au fil des séances, on va faire un petit pas pour essayer d'en élucider certains points. Donc, dont Bernard Senat, vous en avez déjà un petit peu parlé aujourd'hui, et Véronique a poursuivi. Et donc moi, je poursuis à mon tour. Alors, donc si on regarde un petit peu ce qu'on lit, vous pouvez le regarder également de livre, je l'ai reproduit intégralement, c'est celui qui se trouve au chapitre 5. Hein. Donc, si on commente un petit peu le graphe ici représenté. Alors, d'une part, nous percevons bien sur le schéma l'effet rétroactif de la phrase qui se boucle. Véronique en a parlé tout à l'heure. D'autre part, celui qui dit quelque chose dit à la fois plus et moins. Hein, s'exprime à chaque fois l'au-delà, les boucles. Enfin, ça, je vais le commenter un petit peu après. Ça, je l'ai déjà dit dans l'énoncé. Voilà. Donc, celui qui parle dit à la fois plus et moins. Ce qui a commencé comme besoin, puisqu'on a dit que si on prend l'exemple de l'enfant, il a un besoin, il a faim, donc on part d'un besoin, mais le fait qu'il commence à l'exprimer, ça devient une demande. Donc ça, du point delta jusque je et a, c'est le schéma, c'est le début du circuit de la demande. Et le signifiant se bouclera sur ce qui achève le sens de la demande et qui constitue le message qu'évoque l'autre. Ça, Véronique vous l'a expliqué tout à l'heure. Il faut en passer à la fois par le message pour revenir jusqu'à l'autre. Même si au début, lorsqu'il demande, il y a son intention de dire ce qu'il demande, il passe déjà par l'autre, mais ça fait encore une autre boucle pour rejoindre le discours courant, le discours commun de la chaîne signifiante. Dans le discours courant, il va en repasser une deuxième fois par l'autre. Alors, l'autre ici est bien entendu à entendre comme l'autre du langage. On peut dire aussi l'autre primordial de la mère, quand je parlais de l'exemple du nourrisson tout à l'heure. Donc, l'institution de l'autre coexiste avec l'achèvement du message. Au temps 3, donc à chaque fois, il y a le temps 3 de cette grande boucle, et il y a le temps 3 du discours courant, du langage courant. Donc, au temps 3, la double courbe s'achève au-delà de l'autre, puisqu'on voit que ça se poursuit, la flèche se poursuit au-delà de l'autre, et elle se poursuit également au-delà du message. Donc, à chaque fois, il y a un au-delà, au-delà du message et au-delà de l'autre. Et donc, ce qui est important de comprendre au niveau du graphe, c'est qu'à la fois, lorsque le sujet parle, il y a à la fois deux plans. Il y a celui de l'intention, qui est cette grande boucle, du vouloir dire, de l'appel, de la demande, l'intention, le vouloir dire, et il y a celui du code du langage courant. qui se situe sur l'autre ligne. Alors, pour faciliter la compréhension de ce qui va être développé par la suite, Lacan nous demande d'admettre provisoirement le cas idéal de la demande trouvant comme réponse la pleine satisfaction. Donc, pour bien comprendre qu'il s'agit, pour faciliter un petit peu la démarche, le raisonnement intellectuel, il nous propose le cas idéal. Alors, dans ce cas idéal, du côté de la demande rencontre l'autre par le biais du message. Mais la demande ne peut pas exactement se confondre avec la satisfaction du besoin, car l'exercice même de tout signifiant transforme la manifestation de ce besoin. On voit bien l'exemple du saumon mayonnaise. Hein. Le besoin, il doit régler ses dettes, il a de l'argent, finalement, ah tiens, je ne me suis toujours pas offert un saumon mayonnaise. Voilà, on voit qu'il y a le désir qui est là sous-jacent. Alors, ce qui est signifié, dans ce qui est dit, ce qui est signifié, est quelque chose au-delà du besoin brut. Il est remodelé par l'usage du signifiant. Ce qui entre dans la création du signifié n'est pas pure et simple traduction du besoin, mais il y a la création d'un désir autre que le besoin. Lacan dit que ce qui est signifié, c'est à la fois le besoin plus le signifiant. Alors, toujours dans ce cas idéal, du côté du signifiant, là je vous ai parlé du côté de la demande, de l'intention, alors maintenant du côté du signifiant, au troisième temps, quelque chose, toujours dans le cas idéal, quelque chose correspondrait à l'apparition miraculeuse de la satisfaction chez l'autre de ce nouveau message créé. Voilà. Donc en gros, le cas idéal, le sujet demande, j'ai besoin de ceci, voilà. Ça rencontre tout à fait, l'autre a tout compris, je te donne ce que tu... Voilà, pas de malentendu, on se comprend, pas rien vient faire barrage. Eh bien, cet idéal correspond à ce que Freud présente comme le plaisir de l'exercice du signifiant comme tel, où l'autre vient dans le prolongement même de cet exercice. Dans ce cas idéal, la demande passe avec succès dans le réel, et permet d'obtenir la réponse à la demande, ce qui a pour effet de produire un plaisir. Bien sûr, quand on entend ça, on n'y croit pas, ou pas trop. Donc Lacan rectifie tout de suite, mais dans la réalité, il y a l'effet opposé qui surgit. Il dit ça, page 93. C'est même ce qui se rencontre le plus souvent. Pourquoi ? Eh bien, parce que la question du désir est en jeu. Cette question du désir entre en jeu dans la demande verbale elle-même. Le quémandeur, dit Lacan, n'a pas l'habitude de présenter sa demande toute nue. Il déguise sa demande. Il demande quelque chose dont il a besoin au nom d'autre chose dont il a quelquefois éventuellement besoin, mais qui sera plus facilement admis comme prétexte à la demande. Et Lacan va même jusqu'à dire, c'est autre chose. S'il ne l'a pas, eh bien, il l'inventera. Il inventera toujours autre chose. Et il tiendra compte, dans la formulation de sa demande, du fonctionnement du système de l'autre. C'est-à-dire que quand on demande, eh bien, on fait attention à qui on s'adresse. Hein? Alors, il donne l'exemple. Hein? Le sujet ne va pas s'adresser de la même manière à la dame d'ouvrage, au banquier, au marieur. Enfin, voilà, c'est les exemples qu'il donne. C'est-à-dire que le désir du quémandeur sera pris et remanié non seulement dans son propre système signifiant à lui, mais dans le système signifiant tel qu'il est institué dans l'autre. Alors j'ai trouvé une petite citation de Jacques Alain Miller dans un séminaire hein, qu'il a donné en, je crois que c'est 95-96, ouais, qui s'appelle « La fuite du sens ». Il dit ceci, pour aider, pour éclairer un petit peu... La parole enveloppe toujours une stratégie qui enveloppe l'autre. La parole enveloppe toujours une stratégie qui enveloppe l'autre. À partir de là, il dit que la parole hystérique est par excellence celle qui met en évidence un vouloir dire distinct du dit, qui souligne le décalage du dire au dit. C'est la parole toujours insatisfaite du dit. C'est pourquoi, à partir de là, Jacques-Alain Miller dit, on dira que la parole hystérique, c'est par excellence, la parole analysante. Dans la mesure où la parole hystérique est la parole qui se fait énigme, qui s'offre à l'autre, comme à interpréter. C'est la parole qui nécessite de l'analyste comme partenaire, qui nécessite de l'interprète. Alors après, il fait un petit topo sur, par opposition à la parole hystérique. Au fond, c'est quoi la parole obsessionnelle ? C'est plutôt une parole qui assèche l'interprétation, qui fait taire l'interprète et qui vise une certaine annulation de la division subjective et donc qui vise une adéquation du vouloir dire au dit. On voit bien pourquoi Jacques-Alain Miller dit que la parole analysante, on va plutôt la situer du côté de la parole hystérique. C'est bien pour ça que, névrosé ou pas névrosé, dans l'analyse, il y a ce qu'on appelle une hystérisation du discours. C'est ça que ça veut dire. Alors, la parole psychotique, poursuit Jacques-Alain Miller, on pourrait dire que c'est la parole qui prend elle-même en charge l'interprétation, au moins quand on est côté versant paranoïa. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la demande du sujet se formule à partir de l'autre. Voilà. Si on se réfère au graphe, la demande du sujet se réfléchit d'abord sur le « je ». Bernard Sonna, vous l'avez expliqué, hein, autrefois. Pour se réfléchir ensuite sur l'autre et s'achever en message par le circuit AM. Ça, dit Lacan, c'est ce qui constitue l'intention, l'appel, le vouloir dire. C'est, on pourrait l'appeler, dit-il, le circuit secondaire du besoin. Le besoin n'a pas un circuit direct, il y a un circuit secondaire. Du côté de la chaîne signifiante, de l'autre boucle, sur le graphe, regardons ce qui se passe en trois temps au niveau du message. Là, c'est ce que je vous ai mis, enfin, ça se voit peut-être pas très bien, hein. Le petit circuit, je vous ai mis en orange. Alors, dans l'énoncé de la chaîne signifiante, il y a un arrêt en M. La chaîne signifiante ne se poursuit pas directement vers l'autre. On pourrait penser que ça file directement vers l'autre. Eh bien non, même si c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on voit qu'au fil du temps qu'on avance, il y a un tas de petits détails et des petits circuits qui se rajoutent. Eh bien non, ça ne passe pas directement de M à A. Ça fait un autre petit circuit. La chaîne signifiante ne se poursuit pas directement vers l'autre, mais elle se réfléchit sur l'objet. Cet objet réclamé à l'autre. Mais il faut que cet objet soit admissible par l'autre. Qu'il devienne l'objet de ce que l'autre veut bien désirer, reconnaître, entendre. Voilà, on voit bien pourquoi l'autre dans l'affaire, voilà, non seulement l'autre en soi à qui on s'adresse, mais l'objet dont il va être question. Qu'est-ce qu'en fait l'autre ? Alors, par rapport à l'enfant, on peut dire que c'est l'objet du désir de la mère, l'objet métonymique. Et c'est seulement au troisième temps, après avoir fait ce petit circuit de ce que l'autre fait, peut bien penser de cet objet, de comment ça se passe, qu'il va enfin s'achever vers l'autre, en repassant par M et en retournant du côté du grand autre. Alors, nous percevons bien, dit Lacan, que ça se complexifie, notamment par rapport au modèle idéal présenté en premier lieu pour faciliter la compréhension. Il dit ceci, page 95. Alors, nous ne nous trouvons donc pas ici dans cet heureux état de satisfaction que nous avions obtenu au bout des trois temps de la première représentation mythique de la demande. Hein, cette représentation idéale, c'était la représentation mythique. Et de son succès, avec sa nouveauté surprenante et son plaisir, par lui-même satisfaisant. Nous nous trouvons, au contraire, arrêtés sur un message qui porte en lui-même un caractère d'ambiguïté. Ce message est en effet une formulation qui est aliénée dès son départ en tant qu'elle part de l'autre, du grand autre, et qui aboutit de ce côté à ce qui est en quelque sorte désir de l'autre. Le message est la rencontre des deux. D'une part, c'est de l'autre lui-même qu'a été évoqué l'appel, D'autre part, dans son appareil signifiant même, sont introduits toutes sortes d'éléments conventionnels qui font ce que nous appellerons le caractère de communauté ou de déplacement des objets, pour autant que ceux-ci sont profondément remaniés par le monde de l'autre. Et il est frappant qu'au troisième temps, comme nous l'avons vu, le discours circule entre les deux points d'aboutissement de la flèche. C'est cela même qui peut aboutir à ce que nous appelons lapsus, trébuchement de la parole. Eh bien, c'est sur l'ambiguïté de cette formation du message, sur la manière dont le message passant par l'objet va se former, que va travailler le mot d'esprit. C'est à ce niveau-là que ça se joue. L'objet du mot d'esprit est de réévoquer la dimension par laquelle le désir rattrape ce qu'il a perdu en cours de route, à savoir ce qu'il a laissé de déchets au niveau de la chaîne métonymique, et d'autre part qu'il rattrape ce qu'il ne réalise pas pleinement au niveau de la métaphore. Toute une partie du désir continue de circuler sous la forme de déchets du signifiant dans l'inconscient. Il y a le désir, il y a ce qu'on en exprime, et verbalement, au niveau de la demande, est-ce qu'on n'en exprime pas, ce qu'on n'en dit pas? Mais ça, voilà, on va se trouver rattrapé par ce qu'on n'en dit pas et ce qu'on désire. La métonymie, dit Jacques Lamillaire, toujours dans son cours La fuite du sens, évoque toujours le manque à être. Elle ne dit ce qui est que à côté. De ce fait, l'être est toujours déjà perdu dans la métonymie où le sens fuit. C'est pourquoi la métonymie est normalement au service du désir d'autre chose. La métaphore, elle, implique au contraire qu'on substitue un signifiant à un autre signifiant pour lui donner un sens, comme nous expliquait Véronique tout à l'heure. Alors, dans le cas du trait d'esprit, quelque chose se passe par une sorte de forçage qui a pour effet de reproduire le plaisir premier de la demande satisfaite. Et en même temps, elle accède à une nouveauté originale. Alors, comment le trait d'esprit vient-il au jour? Maintenant qu'on a vu son fonctionnement, comment il vient au jour? Eh bien, tout d'abord, dit Lacan, il n'y a pas de trait d'esprit solitaire. Il est solidaire de l'autre, qui est chargé de l'authentifier. Ce qui est communiqué dans le trait d'esprit à l'autre joue essentiellement d'une façon singulièrement rusée, sur la dimension du peu de sens. C'est une ruse du langage. De cette dimension du peu de sens, il s'agit pour le sujet d'en dévoiler une vraie valeur et que l'autre perçoive l'évocation d'un sens au-delà. Donc l'autre authentifie finalement non pas le peu de sens, mais ce sens au-delà que Lacan propose d'appeler le pas de sens, que voilà, j'ai écrit ici. Alors le pas de sens, attention, hein, il n'est pas entendre... On est dans l'équivoque des mots. C'est pas une absence ni une négation, surtout pas. C'est entendre, au contraire, comme un pas en avant, un franchissement, un emboîtement. Lacan propose, tout comme Freud d'ailleurs, de ne pas maintenir ce terme de non-sens. Ce pas de sens, dit Lacan, est à proprement parler ce qui est réalisé dans la métaphore. Dans la métaphore, l'intention du sujet passe. C'est son besoin qui, au-delà de l'usage métonymique, introduit dans la métaphore le pas de sens. Un signifiant est substitué à un autre pour donner un sens. Le trait d'esprit, c'est en quelque sorte ce pas, pour reprendre le pas, ce pas vidé de toute espèce de besoin, permettant de manifester ce qui en moi est latent de mon désir. Voilà, donc on se déloge du besoin. Pour que, dans le trait d'esprit, hein, Lacan dit forçage, voilà, il y a être délogé, forcé, on voit bien que c'est l'envers de, voilà. Hein, donc le trait d'esprit, c'est en quelque sorte ce pas vidé de toute espèce de besoin permettant que se manifeste en moi le désir latent. Alors Jacques Lamillaire dit toujours dans ce même séminaire, ce qui tient le haut du pavé dans l'affaire du mot d'esprit, c'est le vouloir dire. C'est qu'il y a là prévalente une intentionnalité du sujet. Cette intentionnalité du sujet émerge grâce à la métaphore qui vient faire surgir le sens caché. Le mot d'esprit, c'est le contraire de la fuite du sens. C'est le sens comme arrêté, dit Lacan. Mais la métonymie préserve le glissement du sens, sa dérive. Fondamentalement, la métonymie l'emporte toujours sur la métaphore. Pourquoi, comme disait Véronique tout à l'heure, il n'y a pas de métaphore sans métonymie. Jamais un mot d'esprit n'abolira la fuite du sens. Ça dit aussi, dit Jacques Alain Miller, que la métaphore est un artifice. Même si elle a de l'effet, elle n'est pourtant que tout à fait provisoire. C'est bien pourquoi nous ne faisons pas des mots d'esprit tous les jours. Ils sont rares. Le mot d'esprit peut trouver écho dans l'autre, mais pas forcément. Ça peut rater. Si ce n'est pas authentifié par l'autre, alors ce n'est pas un mot d'esprit. Il faut être au moins deux. Ce n'est qu'au-delà de l'objet que se produit la nouveauté en même temps que le pas de sens et en même temps pour les deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a le sujet et l'autre. Le sujet est celui qui parle à l'autre et qui lui communique la nouveauté comme trait d'esprit. Après avoir parcouru le segment de la dimension métonymique, il fait recevoir le peu de sens comme tel et l'autre y authentifie le pas de sens. Et le plaisir s'achève pour le sujet. Lacan dit, page 99, « C'est pour autant que le sujet est arrivé avec son trait d'esprit à surprendre l'autre qu'il récolte le plaisir. Et c'est bien le même plaisir primitif du sujet infantile, plaisir primordial lors du premier usage du signifiant, dont je parlais au tout début, en introduction. » Et donc, pour conclure, comme Bernard Senave l'autre jour nous a parlé, nous a dit... J'espérais qu'on aille voir un petit peu dans ce petit livre de Jacques Alain Miller qui s'intitule « Du nouveau ». Je vais terminer par un tout petit passage qui se trouve page 34-35. Voilà ce qu'il dit. Puisque il faut savoir que ce petit livre, c'est une introduction au séminaire 5 de Lacan, du séminaire qu'on étudie. Voilà, je le cite. « Quelle est la satisfaction particulière du vice selon Lacan ? Elle se produit exactement quand l'intention du sujet se réalise dans le message, en même temps que la chaîne signifiante, elle atteint le point grand A. La satisfaction du vide, c'est en quelque sorte la simultanéité entre la réalisation de l'inconscient du sujet dans le message et l'atteinte du point grand A accueillant la formation signifiante. C'est une satisfaction très élaborée. En règle générale, elle ne se produit pas. Pas de satisfaction. Dans la règle, c'est l'insatisfaction. Reste qu'il se produit parfois, en effet, le miracle de la satisfaction qui a lieu au moment où, dans votre propre échec à dire, toujours à côté, l'autre arrive à entendre ce qu'il y a au-delà. D'une certaine façon, il n'est de bonheur que dans l'échec à dire. Quand l'autre vous interprète dans votre échec à dire, dans votre lapsus, dans votre trébuchement, dans votre limite et vous entend au-delà, à l'horizon. Voilà, je terminerai là-dessus.
Bien, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, je vais essayer de lancer quelques questions pour que le public puisse aussi réfléchir, que vous puissiez réfléchir à vos questions. En entendant cette formule que Véronique Robert soulignait, pas de métaphore s'il n'y a pas de métonymie, reprise de Lacan, et en parlant de substitution et de déplacement, je repensais aux axes linguistiques de synchronie et diachronie dans le langage. Et je me disais, au fond, on se retrouve ici, en tout cas j'en faisais cette lecture-là, à la nécessité du temps de l'après-coup. C'est quand même la nécessité première dans la chaîne signifiante et dans le glissement du langage d'un mot à l'autre. Il y a d'abord ça pour qu'après il y ait tant d'après-coup, et la métaphore ne peut s'inscrire que s'il y a d'abord ça. Au fond, je le reprenais sur ce versant-là en repassant par la linguistique également. Euh, Alors, en regard de ce que Béatrice nous a dit, et en parlant au fond de cet objet qui était visé au-delà, et tu as apporté la question en parlant et de la névrose et de la psychose chez le sujet qui serait plutôt paranoïaque, qui au fond lui détient l'interprétation. Il n'a pas besoin de l'autre, et donc qu'en est-il du mot d'esprit dans la psychose? Voilà, ce serait. Est-ce qu'il a une place? Et comment est-ce qu'il se déplie à ce moment-là? Voilà.
Alors, quand tu dis qu'en est-il du mot d'esprit dans la psychose, alors tu le sais-tu de quel côté? Du sujet ou de l'autre?
Parce que c'est pas la même chose.
Voilà. On va pas forcément répondre la même chose. Enfin, oui. Puisque le mot d'esprit, c'est l'autre qui l'authentifie. Donc, enfin.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais en même temps, dans sa production, il en passe par l'autre.
Oui.
Donc voilà, je.
Oui, oui. Dire un petit quelque chose. En tout cas, dans la schizophrénie, on voit dans le langage schizophrénique, on peut voir des phénomènes de condensation, de déplacement, de métonymie. On peut voir les lois du signifiant, qui se situent sur pas sur cette ligne du discours, mais ici là-dessus, sans qu'il y ait boucle.
Voilà.
Alors ça nous fait ça peut nous faire rire nous,
oui.
Le langage schizophrénique par moment, mais ça ne fait pas rire le sujet lui-même. Enfin bon. Ça c'est pour la schizophrénie.
Parce que dans certains cas, quand le schizophrène parfois fait de l'ironie, parfois on n'est pas toujours persuadé si lui il est. Est-ce qu'il se rend forcément toujours compte de son ironie? Pas forcément tout le temps. Ça fait parfois ironie pour l'autre. C'est pas forcément. Voilà. Et parfois ça fait ironie aussi pour vraiment le sujet psychotique. Là, c'est différent, on s'écarte du
mot d'esprit.
On s'écarte
du sujet, mais. Oui, non. On s'écarte du sujet. Ouais. Je ne peux pas dire.
Voilà, alors, si vous avez une question.
Est-ce que vous pourriez revenir un instant sur la métonymie et sur son rapport à la réalité qui est une réalité qui n'existe pas? De quelle réalité? Comment faut-il entendre le concept de réalité et son rapport au leur éventuellement? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, bon, qui n'est pas sans lien, c'est... Vous pourriez revenir un instant également sur le rapport de la métaphore au grand autre et ce qu'il en est de la métonymie au grand autre également, de façon schématique, enfin, on va dire, voilà.
Lacan note dans le chapitre 4 que la métonymie fonctionne, opère sans référence à la réalité. Donc on a l'exemple des 30 voiles. Bon voilà, ça ne dit pas, ça ne répond pas de la réalité comme telle. Voilà. Donc le signifiant glisse de navire à voile. De même que dans cette page, Lacan glisse aussi avec tangué, bâbord et tribord. Ce que je trouvais ça extrêmement joli. Bon, voilà. Donc aucune référence à la réalité de la métaphore et de la métonymie. Bâbord, tribord, mais en même temps, voilà, c'est. On se laisse emporter par la métonymie. C'est ça que j'ai compris, moi. De même, la truite rose, ça nous emporte vers l'idée de la chair de la jeune fille, enfin, voilà, dont on parle à table, enfin, ou qu'on évoque. Donc, voilà, pas de référence à la réalité. Pas comme tel. Ça glisse, le signifiant glisse. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai compris ça. Alors, votre deuxième question, c'est.
C'était revenir un instant sur le rapport donc de la métaphore au grand autre. Est-ce qu'il en est de la métonymie au grand autre également
Oui. Donc, le grand autre dans la métaphore, c'est celui qui admet, qui entérine la création signifiante de la métaphore. Moi, j'ai compris ça comme ça. Ça, j'en ai pas parlé, mais Béatrice a parlé de ça. La métonymie, la métonymie et le grand autre, le grand autre aussi accueille le trait d'esprit qui relève de la métonymie, parce que quand on voit ici le discours de Soulier et la réponse de Hein, donc Soulier parle de veau d'or et Hein, lui, hop, il fait descendre la signification du veau d'or à celle du simple veau, et bien cette chute de sens, elle est aussi accueillie par le grand autre, il me semble, de la même façon que la métaphore. Et ça fait rire. Enfin, je comprends ça comme ça.
Ok.
Ouais. Je ne sais pas si je peux dire autre chose par rapport à ça.
Pas pour répondre tout à fait par rapport au trait d'esprit, mais parce que ça me faisait penser tout simplement l'autre jour à un petit garçon que j'écoutais, comme ça, un petit garçon psychotique, il parle très bien, il est intelligent, mais c'est hors sens. Il sort même des paroles d'adulte, il a 5 ans à peine, mais c'est complètement hors sens ce qu'il dit. Moi j'ai envie de dire que peut-être que dans le discours, parce que là, votre question ne touche pas forcément par rapport au trait d'esprit, si j'ai bien compris. C'est le rapport du grand autre par rapport à au discours métonymique et l'implication du grand autre quand on est sur un versant plutôt métaphorique. Enfin, c'est ça que j'entends. Et j'ai envie de dire, ce petit garçon qui parle, même si j'interviens ou pas, enfin, il en a rien à foutre de ce que je lui dis. Enfin, lui, il cause. Même si je lui pose une question, il peut répondre tout à fait à côté. Mais il cause. C'est un moulin à paroles. Il parle très bien, même un discours, un vocabulaire. Voilà. Tandis que, est-ce qu'on pourrait pas dire que du côté de la métaphore, cette rencontre du grand autre, à laquelle on peut être à la place du grand autre du langage, du grand autre qu'on représente dans la relation à l'autre, ne permet pas, justement, quand l'autre aussi intervient, quand on est dans l'échange avec l'autre, de venir faire point de capitonnage, comme ça, où quelque chose de l'ordre de la métaphore peut se mettre en place, enfin, peut venir capitonner le discours, qui fait que ça vient apporter un certain sens, où on vient ponctuer les choses pour y mettre du sens. Enfin, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Sans se rattacher au trait d'esprit. Je ne sais pas si c'est...
Merci. Voilà, madame.
Oui, voilà. Dès que... Tous ces schémas, d'une certaine façon, c'est l'autre. Hein, c'est l'autre dimension, c'est l'autre registre dans lequel on se retrouve dès qu'on parle. Et qu'on parle tout seul, ou en s'adressant à quelqu'un, finalement ça arrive au même, et finalement, s'adresse-t-on jamais à quelqu'un, la question se pose. Lacan arrivera même à dire qu'on répète toujours la même chose et qu'on parle toujours tout seul. Bon, mais ce qui est... assez saisissant ici quand on prend les choses comme ça, c'est que vous posez la question de la réalité. Où est la réalité là-dedans? Mais ce qui est intéressant dans ces affaires de mon esprit, c'est justement l'irréalité plutôt que ça déploie. C'est que la réalité, ça peut sembler être le besoin. Lacan fait remarquer que le désir, on pourrait dire que les soviets, c'est le socialisme plus l'électricité, pour ceux à qui l'URSS peut signifier quelque chose, Lacan l'évoque. Le désir, c'est le besoin plus le signifiant. C'est-à-dire que quand on ajoute le signifiant sur du besoin, quand le besoin doit en passer par le signifiant, une autre dimension s'ouvre, Lacan l'appelle là le désir. Alors, il y a quelques passages, vous l'avez évoqué, où il parle justement du plaisir. Ce sont des termes là qui restent encore assez ambigus. Le désir qui surgit dès lors qu'on parle, au-delà de la demande. Il dit aussi que c'est le plaisir du signifiant. Il dira plus tard que c'est la jouissance ou l'autre satisfaction qu'on voit très bien dans l'affaire du saumon mayonnaise. On a le type dans le fond qui est censé crever la dalle. Hein, il demande qu'on lui satisfasse le besoin, ce que la dame ou l'homme de bonne chose, on parle toujours dame de bonnes œuvres, mais enfin après tout, ce que le kidam qui lui donne de quoi manger, etc. Et il voit que dans le fond, il se goberge de saumon mayonnaise. Mais c'est un mot d'esprit parce que ça fait surgir une autre satisfaction que celle du besoin, qui là dans le fond est purement animal. Et dès qu'on parle, on a une autre satisfaction que le besoin. Dès qu'on parle, le besoin, on s'en fout. Dès qu'on parle, on n'a plus tellement de besoin que... On a autre chose à assouvir que le besoin. C'est ça que la psychanalyse prend sérieux. Dès qu'on parle, on a à assouvir bien autre chose qui est une satisfaction bizarre, inquiétante, bien dérangeante, qui est celle, si j'ose dire, du saumon mayonnaise. La différence entre le saumon mayonnaise et le pain sec. Hein? Enfin, le saumon mayonnaise, à l'époque, c'est comme le caviar maintenant, disons. Bon. Eh bien, donc, on voit très bien que dès qu'on parle, on a envie de caviar. Pour le dire comme ça. Et donc, ça peut aller du dégoût jusqu'à ce que vous voulez. Mais, bref, ça montre un autre ordre de satisfaction que celle du besoin, et qui est plutôt cette autre satisfaction. On ne va pas appeler ça la réalité, justement. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la réalité, mais plutôt... Lacan passe par certains moments de l'irréalité. L'irréel, là, c'est le symbolique, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des choses, de cette façon, qui n'existent pas. Hein? C'est irréel, c'est symbolique, surtout c'est pareil. Mais le saumon mayonnaise, cette satisfaction du saumon mayonnaise, que Lacan appellera plus tard la jouissance, c'est là qu'on reconnaît, on va poser la question, tout le monde peut le répondre maintenant, c'est le réel, d'une certaine façon. C'est la satisfaction qui est, c'est l'autre satisfaction qui est au-delà de celle du besoin. Il ne faut pas s'imaginer que le besoin, c'est le réel. Le besoin, c'est la réalité la plus plate, le besoin, c'est le besoin. Mais dès qu'on parle, le problème du besoin n'est pas là. D'ailleurs, on peut même parler, mettre ça sur le plan politique, etc. Jamais un homme politique ne se fera élire, n'est-ce pas, par la satisfaction des besoins. Les hommes politiques savent très bien qu'ils doivent plutôt jouer avec le saumon mayonnaise, pour le dire comme ça. Bon. Enfin, voilà, j'y pense maintenant, mais je pense qu'un véritable homme politique promet du saumon mayonnaise.
Il y a d'abord les huîtres, puis il y a la truite, et puis les convives commencèrent à causer. Voilà. Tout le paragraphe, c'est quand même toute une autre satisfaction. Et puis paf, on amène le rôti et le perdreau. Mais enfin, je trouve ça, cette autre satisfaction liée à la parole, elle est très présente dans ce petit passage.
Et puis c'est peut-être lui qui sera mangé. Et puis c'est peut-être lui qui sera mangé, comme c'est un homme à femme finalement. C'est lui qui les dévore, mais on sait que Maupassant sera dévoré. Enfin, l'auteur, en tout cas, savait qu'il finit. Il finit mal et il finit comme ça. C'est parce qu'il est mort de la syphilis et de la paralysie générale, il a fini très mal. Pourtant, l'histoire dit qu'il était content.
Une autre question ? Bon. Bien, je vous propose de remercier chaleureusement Véronique Robert et Béatrice Brou. Et comme nous nous retrouvons l'an prochain, nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Au revoir.